Bonsoir à toutes et tous, l'heure est grave. Ce soir, on parle littérature avec Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Gaz, bonsoir à tous.
Un cinquième épisode littéraire, et après s'être attaqué à l'un des plus grands romans du XXe siècle de la culture américaine, soyons un peu chauvins, attaquons enfin un bon bouquin bien de chez nous. Ce soir, on lit L'étranger de Camus. Mais alors, Camus, Raph, toi qui me demandais, qui est-il ?
Qui est donc Albert Camus. Gaspard, tu nous le présentes ?
Ouais, Albert Camus, il est né en 1913 en Algérie, à peu près comme toi. C'est un écrivain, un philosophe, un romancier, un dramaturge, un essayiste et un novelliste français, comme dirait Wikipédia. Il est aussi journaliste, militant, engagé dans la résistance française, un peu comme toi, Raph, et comme ton grand-père. Proche des courants libertaires et dans les combats moraux de l'après-guerre, j'ai fini la citation. Il a publié son premier roman en 1942, L'étranger. Qui va être le premier roman de ce qu'on appelle une tétralogie.
Ah, c'est donc son first, son premier roman.
Ouais,
là.
Exactement.
Ok. Et tétralogie, par contre.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, je sais pas. Moi, je pense à.
C'est une œuvre en quatre œuvres.
Ah, parce que moi, je pensais à Zebrahead, qui était un groupe de punk rock que j'écoutais. Voilà. Dédicace à ce groupe.
Et qui avait fait un album qui s'appelait Tétralogie.
Non, mais Zebra, Tétra.
Ça s'appelait Albert. Albert Camus.
C'est donc la première œuvre d'une tétralogie que Camus va appeler le cycle de l'absurde, car Camus pensait comme d'autres, comme Sartre par exemple, que lorsqu'ils doivent développer une pensée, il faut l'illustrer avec un roman, une pièce de théâtre et plusieurs, ou un seul essai, et c'est ce que va faire Camus. Alors Camus, je vais vite définir l'absurde, comme lui-même le définit, c'est-à-dire comme la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Raph. Toi qui es en train de manger de la pizza, qu'en dis-tu?
Tout ce qui est appel déraisonnable du monde, personnellement, moi, ça dépend si c'est pelle plate ou pelle mécanique. Après, tu peux... Non, ça fait pas le même ouvrage, hein, c'est sûr.
C'est marrant parce que lui, en revanche, il parlait plutôt de devoir avoir une prise de conscience de l'absurde de la condition humaine. En fait, il faut prendre conscience qu'on est en train de vivre dans un monde totalement absurde. Et en fait, ce que Camus disait par rapport à l'absurde, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à le résoudre, mais au contraire s'en révolter, c'est-à-dire en fait prendre conscience de l'absurdité, et c'est en prenant conscience de la fatalité de la vie, de l'absurdité de la vie, qu'on peut être heureux.
Et c'est hyper important ce que tu dis, puisque ça c'est ce qu'on va voir se dérouler tout au long de L'étranger d'Albert Camus.
Ah, tu l'as lu ?
Oui, je l'ai lu. Bon, on m'avait dit que je devais le lire, alors je l'ai lu.
Ah oui, tu as bien fait.
J'avais plus envie de lire SoFoot, mais il y avait... Cette semaine,
ça parlait aussi d'étrangers.
Les étrangers et l'équipe de France, c'est un peu comme les francs-maçons dans la France.
JMLP, je mettrai juste les initiales.
On va voir tout se dérouler au cours du livre où on va se rendre compte de l'absurdité de la vie et surtout des constructions humaines. Pour moi, c'est aussi un truc assez fort. C'est la construction, ça va être une histoire aussi de procès. Donc.
Il va publier une quinzaine de romans, une demi-dizaine de pièces de théâtre, beaucoup d'essais. Et pour couronner le tout, il va gagner en 1957 le prix Nobel de littérature. Là où toi, Raph, tu as juste une médaille de bronze au judo, ce qui est pas top.
Oui.
Mais c'est bien. Moi, je t'ai toujours dit que j'étais très fier de ta
médaille
de bronze.
Par contre, ma dissertation sur le judo a remporté...
Donc, le prix Nobel de littérature.
Quand même, on peut le dire. Le judo. J'aime le judo.
Je vois trop si c'est la cérémonie en suédois. Ah, le judo, c'est un truc que l'on ne
peut pas faire gobler. Oui, le judo a changé ma vie.
Toute l'assemblée avec les écouteurs.
C'est Obama qui verse une larme. Ah, c'est le livre pour lequel j'aurais voté, ouais, tu sais.
C'est le judo, ça fait 12 pages, il y a des illustrations et tout.
Oh, t'as une page centrale où c'est un dessin avec un soleil qui sourit, tu vois.
Et donc, pour continuer sur cette note comique, Albert Camus, il meurt 3 ans plus tard dans un accident de voiture et il est inhumé au cimetière de Lourmarin. Toi aussi, Raph.
Ouais.
Et donc, il a publié en 1942 L'étranger, qui était son premier roman. Il avait 29 ans. Et Camus, pour définir son roman, il avait cette petite phrase qui disait « Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. »
Oh,
et c'est sur cette belle phrase qu'a dit Albert Camus que je me tourne vers toi, Raphaël, et que je te demande pourquoi que ça s'appelle L'étranger, ce livre.
Oh putain, j'en ai pas la moindre idée. Mais alors, ok, tu sais quoi, moment confession, pour le coup... Alors très rapidement, je pense qu'on va donner notre avis sur ce livre avant et un peu après, mais de manière générale, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était pas la première fois que je le lisais, mais ça fait du bien de revenir là-dedans. C'est hyper bien écrit, c'est une histoire que j'ai bien appréciée, au-delà de tout ce dont on va parler, c'est pas non plus une histoire hyper fun, mais qui est hyper sympa à lire. Hyper bien écrit, avec un style que je trouve hyper particulier. T'as vraiment l'impression qu'en fait t'es dans la tête de la personne, parce que c'est des pensées courtes, simples, un petit peu comme tu aurais des pensées à chaque fois que ton regard se pose sur quelque chose, tu penses quelque chose de court sur la chose. Et là, c'est un peu ça, c'est tu suis la pensée du mec sur un moment de sa vie qui est assez particulier. Et alors du coup, moment confession, comme je te disais, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle L'Étranger, honnêtement.
Tu ne savais pas il y a 4 semaines pourquoi ça s'appelait Les Souris et les Hommes, tu ne sais pas pourquoi ça s'appelle L'Étranger.
Bon, je vous fais une confession, je ne sais pas lire. c'est tout.
En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le soir, je m'enregistre quand je dis L'Étranger, Raph, il écoute dans le métro. Après.
Tous les personnages ont ta tête, Caspar.
Page 152.
Est-ce qu'en plus tu dis numéro des pages et tu te coupes au milieu des mots qui sont coupés, tu sais. Là. Urgent.
Alors pour moi, L'Étranger, c'est peut-être un titre qu'on peut prendre de plusieurs points de vue. Ça peut être tout d'abord cette personne que notre personnage Meursault va battre sur une plage, cette personne qui est qualifiée juste de l'arabe, une personne qui voilà va pas être considérée, qui n'aura jamais de prénom, qui n'aura jamais de fonction ni d'arc narratif. Ça peut être aussi, surtout, le personnage de Meursault qui est tout à fait étranger juste au monde dans lequel il vit. Et ouais. ça me paraît évident que c'est peut-être cet étranger-là, puisqu'en fait, on va en discuter ensuite, mais le personnage de Meursault va ouvrir les yeux sur le monde dans lequel il vit, alors qu'il ne fait que descendre essentiellement, socialement et arriver au bout de sa vie. C'est vraiment au dernier moment qu'il va prendre conscience de tout et à ne plus être étranger du monde dans lequel il vit.
Mais il y a vraiment le sentiment, en effet, que c'est, même s'il appartient à l'endroit là où il est, il n'est pas censé être là. Je ne sais pas, enfin, il est incongru où qu'il se trouve. Il n'est jamais au bon endroit au bon moment, ça c'est, voilà.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est peut-être une belle manière de passer à la suite de notre émission, et de lire ensemble L'Étranger. Alors ça commence sur une super news, puisqu'on apprend que maman est morte.
Oui.
Alors c'est quand même une des premières phrases, une phrase des plus célèbres, je pense, de la littérature française.
Exactement.
Raph, maman est morte, t'en dis quoi ?
Oh bah moi ça me fait ni chaud ni froid, tu veux que je te dise ?
Ah bah oui, bah comme le personnage de Meursault qui a l'air d'en avoir...
Elle l'a bien cherché ! La vieille ! La vieille qui pue !
Non mais c'est vrai que... Voilà, donc c'est la première phrase, elle est hyper connue parce que le type ne réagit pas du tout en mode « Oh, c'était peut-être hier ou c'était aujourd'hui, je sais plus. » Et il dit « Ça ne veut rien dire. » Bah si, ça veut dire que ta mère est morte, voilà.
C'est-à-dire que voilà, on va ouvrir sur l'information « Maman est morte » ou « Hier peut-être, je sais plus ». Et ce personnage n'a l'air d'en avoir absolument rien à foutre. Il ne pleure pas, il éprouve aucune tristesse, aucune émotion, juste c'est une information comme
c'est
une
factuel,
autre.
C'est factuel, quoi.
Maman est morte et du coup, il faut aller enterrer maman. Et on apprend du coup qui est ce personnage.
Alors, il faut aller à l'enterrement de maman.
C'est ça.
Il ne faut pas enterrer soi-même maman.
Oui. Oui, alors ce sera assez gênant d'ailleurs. Tu imagines 30 personnes qui te regardent creuser de la terre et tout. Bon, allez, on n'a pas que ça à foutre.
En tant que premier-né de la fratrie, vous êtes obligé de creuser vous-même la tombe pour t'enterrer avec elle vivant.
Tu dois passer la nuit et tout.
Oh. Bref, du coup, il faut aller enterrer maman. Et pour enterrer maman, c'est pas tout près. Parce que...
Non, il faut prendre l'autocar.
Exactement.
Et il se rend près d'Alger, puisque ça se passe en Algérie. Et il arrive, il est reçu par les différentes personnes de l'hospice, où vivait sa mère.
Notamment un directeur et un gardien.
Oui, et qui semble... voilà, ils arrivent, ils viennent le voir, on est vraiment navré que votre mère soit morte. Et ils sont assez surpris de voir que Meursault, donc... a l'air d'en avoir absolument rien à carrer.
Non mais rien à foutre quoi.
Et à tel point que même, on va lui proposer de venir voir le corps de sa mère.
Il refuse. Il refuse, ça l'intéresse pas. Alors ça, quand même, je comprends. Enfin, t'as peut-être pas forcément envie de voir la personne. Mais en fait, c'est...
Est-ce que vous voulez déjeuner avec le corps de votre mère? On vous le pose sur une chaise et tout.
La conversation, c'est en bougeant les lèvres.
Alors mon chéri, ça se passe bien?
T'as deux infirmiers qui lèvent les bras et tout.
Tu peux pas me parler comme ça, je suis quand même ta mère.
Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? J'aimerais manger tranquille. Donc, il n'a pas envie de voir sa mère.
Mais
et
en revanche,
c'est le premier truc un peu suspect. C'est-à-dire que les deux vont regarder en disant, bon, bah, ok.
Et ben, nous-mêmes aussi, ça fait même pas 10 pages qu'on connaît ce personnage et on est très surpris de voir qu'il en a rien à carrer, quoi.
Exactement.
Et en revanche, il va accepter de surveiller, plus que surveiller, parce que, au cas où elle se relève.
Au cas où on la vole.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il accepte de veiller le cercueil avec les quelques amis, de sa grand-mère,
de sa mère.
En plus, ça doit être horrible parce qu'ils doivent se dire c'est nous les prochains.
Tellement, c'est vraiment le compte à rebours.
C'est horrible ce principe de. En plus, ils laissent le cadavre dans la maison de retraite, bref.
Et en fait, tout ce dont il parle, c'est du fait qu'il est fatigué, qu'il a envie de dormir, etc. Enfin, pour lui, c'est un peu un jour normal, quoi.
Le lendemain, il retourne à Alger, là où il vit, et il va aller nager, un peu pour se changer les idées, Meursault. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Marie.
Alors, il la rencontre pas, il la connaît déjà. C'est une fille qui bossait chez lui.
Oui, mais alors, justement, il la croise dans l'eau. C'est-à-dire que c'est quand même le truc le plus... Tu viens de perdre maman, tu vas nager pour changer tes idées et tu tombes sur une de tes putains d'anciennes collègues en maillot de bain qui commence à te draguer. Parce qu'il commence vraiment à se draguer.
Il se dragouille tous les deux. Hein.
Ah ouais.
Bah, il se dragouille d'ailleurs tellement bien, comment ça va finir, Gaspard ?
Bah, ça va finir qu'il va la ramener chez elle le soir. Il va l'emmener au cinéma, puis ensuite...
Ils vont voir quoi ?
Ils vont voir un film avec Fernandel.
Exactement.
Un film très comique.
Ouais, très comique de Fernandel.
Ah ouais.
Et du coup, il se dragouille. Et elle, on sent qu'elle, elle est tout de suite plus in love que lui. Hein.
Ah bah, c'est-à-dire que, oui, on a l'impression que, t'as raison, il en a autant à foutre de cette relation que de la mort de sa mère, quoi. Meursault, c'est une carapace qui n'éprouve aucun sentiment. On a l'impression qu'il est totalement indifférent, qu'il est complètement blasé, pour utiliser une expression de la jeunesse d'aujourd'hui, totalement blasé par ce qui lui arrive, il en a rien à battre.
Alors qu'elle, pour le coup, elle est vraiment à fond. Elle lui dit « Oh, on va se marier, tu vas m'épouser, etc.
Ouais, » Moi, j'ai noté une de perdue, une de niquée. Je trouve ça très bien. Parce qu'il enchaîne quand même...
Oh, putain, elle est pas mal.
Il enchaîne quand même l'enterrement de sa mère avec le début d'une relation. Et donc, il débute cette relation et il va surtout aussi entretenir une nouvelle relation avec une de ses bonnes connaissances, son voisin de palier.
Raymond.
Et Raph, je te propose que tu nous en parles un petit peu de ce voisin.
Raymond, alors ce voisin, voilà, en fait on va suivre aussi en parallèle un petit peu les aventures avec deux voisins de palier, Raymond et le deuxième, j'ai oublié son nom mais c'est un vieux, Raymond
qui est un chien,
voilà, mais d'abord Raymond qui est un macro, voilà, donc un proxénète, mais lui dit juste qu'il est magasinier, mais c'est juste un macro, et ce type est une ordure de la plus belle espèce, hein, clairement. Et il a hyper. Et c'est lui qui va déclencher un petit peu les problèmes pour Meursault, on peut le dire. Enfin, c'est...
Ah bah moi je l'ai appelé Raymond Lambrouille.
Raymond Lambrouille.
Et surtout qu'il y a un moment, moi je serais Meursault, je vais dire, tu cherches un peu les emmerdes aussi. Hein.
Et bah c'est justement ça, le personnage de Meursault, étranger, hein, tu vois, on retombe sur le titre, c'est que il est complètement en dehors du. Il est en dehors du système de pensée. Et c'est. Il dit jamais vraiment non, c'est son personnage qui est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il cherche pas vraiment les embrouilles, plutôt qu'il ne réagit pas comme il devrait réagir.
C'est l'indifférence totale.
Ouais,
c'est comme si en fait le roman commence, et donc là on est vraiment au début du roman, et en fait il faut imaginer que au début c'est vraiment comme si on suivait son journal intime, c'est-à-dire que on a le récit quasiment heure par heure d'une de ces journées type.
Point par point, quoi.
Ouais, et on voit qu'en fait rien ne l'atteint. Il est déjà blasé. C'est comme s'il avait compris depuis déjà longtemps que, de toute façon, ça sert à rien. Voilà, je ne serai jamais heureux. Tout le monde est chacun dans son coin. Voilà.
Mais il n'y a même pas une question d'heureux parce qu'il.
Non, c'est la question.
Il
se la pose même pas, quoi. C'est.
En fait, c'est ça. Il se pose pas de questions. Voilà. Il vit le truc. Voilà. En fait, c'est un réceptacle.
C'est ça.
Et au monde extérieur, mais il réfléchit pas plus que ça. Et du coup, Raymond, donc, qui est un proxénète et qui dit qu'une fille lui a manqué. Alors, je ne connaissais pas cette expression avant, mais qui est en gros manqué de respect.
Ouais, je pense que c'est ça. Moi, d'un coup, vraiment, je l'ai imaginé, tu sais, façon.
Elle me manque tellement.
Non, moi,
elle
je le voyais
tellement,
plus.
Je voulais casser la gueule.
En pimp new-yorkais des années 70, tu sais, qui décalait trop avec Algérie dans les années 40.
Tu sais, habillé en rose fuchsia.
C'est ça, avec l'énorme.
Il faut pas traîner avec Raymond Lambrouille, il fait trop d'embrouille.
Putain, faut pas lui manquer, hein.
Faut pas lui manquer. Hey, tu m'as trop manqué,
tu étais où, là?
Bah, je sais pas, comme tous les jours au travail.
J'appelle mon pote Meursault, là.
C'est un ouf, c'est un gueudin.
C'est un mec, il en a rien à foutre de tout.
Il en a rien à foutre. Meursault, c'est un ouf, c'est tellement ouf, il en a rien à foutre. Et du coup, il dit, Meursault, viens m'aider, sois un copain, il y a cette fille qui m'a manqué, écris-lui une lettre pour lui dire de venir, que je lui casse la gueule, quoi.
Et en gros, Meursault dîne un soir avec lui, écrit la lettre dans laquelle il déverse un peu toute la haine de Raymond. Se passe quelques jours, et puis au bout de quelques jours, il va entendre une dispute alors qu'il est au lit avec Marie, sa nouvelle girlfriend. Il va entendre une dispute et il va comprendre qu'en fait Raymond est en train de donner des coups de ceinture.
Il est en train de tuer la meuf, hein, clairement.
C'est ça, vraiment, il la frappe, il l'explose.
Ouais, tout le voisinage intervient.
C'est
quoi.
Ça, tout le voisinage intervient, les flics interviennent.
Mais du coup, c'est dans une période où les keufs et la violence contre les femmes, c'est pas la priorité nationale.
Ah non.
Du coup, les keufs disent gentiment, bon, t'arrêtes de la frapper, mais ça s'arrête un peu là. Je veux dire, il n'y a pas de conséquences pour le Raymond, quoi.
Est-ce qu'on serait pas sur ce qu'on appelle un anti-héros ?
Ouh, on drop des mots, là.
On drop des mots, parce qu'en même temps, on suit ce personnage de maintenant depuis une cinquantaine de pages, et on n'est pas face à quelqu'un dont on peut respecter les valeurs.
Non, mais c'est ça, en fait, on n'a pas un attachement pour lui parce qu'il fait, on a un attachement pour lui parce qu'on est forcé, en fait.
Parce qu'on est de son point de vue.
Ouais. Exactement. Exactement, c'est-à-dire ouais. que l'auteur ne nous donne pas le choix de suivre autre chose ou de contester ce que pense. Il y a pas, en fait, il n'y a pas d'opinion qui sont émises, c'est du fait. Ça, c'est assez ouf, c'est-à-dire que tout le livre est basé sur simplement « je fais ci, je fais ça », etc. Et il n'y a pas de « ah là là, moi je pense que les gens comme si c'est vraiment des enculés ». Non, c'est uniquement bah, « je fume une cigarette parce que j'en ai envie »,« ah, elle est belle Marie, j'ai envie de l'embrasser », etc. Enfin, ah, j'ai envie de couvrir mon pote qui a tapé une femme parce que j'en ai envie, quoi.
Et le petit Raymond, il est tellement content de voir que Meursault l'a aidé qu'il va l'inviter à la campagne. À la campagne, on se comprend, pas loin d'Alger, chez un de ses amis à lui. Alors déjà, je trouve ça très sympa, l'idée de remercier les gens en les invitant chez les autres.
Merci d'avoir couvert la fois où j'ai failli tuer ma femme.
Je t'invite chez un type sans lui demander. Et il débarque donc pour cette...
C'est vraiment Raymond Lambrouille, quoi.
C'est vraiment Raymond Lambrouille.
Dis donc, maintenant qu'on a bien cassé la gueule à la bétasse, tu veux pas qu'on aille chez mon pote sur le prévenir? Et salut poteau, j'ai amené deux mecs, là.
Ouais, il va lui proposer d'aller passer le dimanche chez cet ami, à côté d'Alger. Et en même temps, à ce moment-là, on suit aussi un peu le parcours professionnel de Meursault, qui travaille dans une petite entreprise qui a l'air tout à fait ennuyeuse.
Une PME, on peut le dire.
Vraiment, aujourd'hui, ça se passerait dans une petite PME. Moi, je vois bien une société qui fait des imprimantes, tu vois,
ouais,
un truc comme
genre,
ça.
Ogifap.
Ouais, c'est un peu là, ouais, Cogifap, ouais. Soficomp, quoi.
Voilà, tout ça, c'est du transport.
Et son patron va lui proposer d'aller travailler à Paris.
Et alors là, réponse de Meursault, quelle on peut s'attendre? Moi, j'en ai rien à secouer, mon gars.
Oui, si tu veux, j'y vais, quoi.
Oui,
j'y vais, si tu veux.
Si tu veux que j'y aille, j'y vais. Si tu veux pas, j'y veux pas. Et là, le patron dit, tu manques quand même d'ambition. Pense à ton CV. Le président a dit que c'est notre projet. Alors, il faut y aller, t'as.
Il en a rien à foutre de la proposition d'aller travailler à Paris, comme il en a absolument rien à carrer lorsque Marie, sa nouvelle girlfriend, lui propose de l'épouser.
Oui. Alors ça, elle lui bourre un peu le mou avec ça. Lui, en mode, oui, pourquoi pas,
oui,
il accepte.
Oui, d'accord, si tu veux, on se mariera après.
Il dit qu'il la trouve belle, et donc celui, ça lui
dérange. Et surtout, ce qui est horrible, c'est qu'à un moment, elle lui demande un truc du genre, si ça avait été une autre qui t'avait demandé, est-ce que t'aurais dit oui? Et lui, du tac au tac, il lui répond, ah oui, j'aurais dit oui.
Voilà.
Donc, on est vraiment sur du bolos, quoi.
Voilà,
un type qui n'en a rien à foutre,
mais non,
à part de lui.
C'est là que tu te trompes sur ton analyse, parce que le mec, il est tellement froid, tellement distant. Bim, v'là les zouzes. Mon gars, t'es comme ça, t'es hyper distant, t'es hyper froid, genre, ah putain, Carrie Meursault. Tu veux pas sortir avec moi?
Crarim,
ouais, pourquoi pas, tu sais.
Si tu veux.
Il est tellement mystérieux, tu vois.
C'est vrai. Mais ce qui est en plus, c'est horriblement vrai. Parce que ça marche. Marie trouve ça horriblement séduisant. Et
elle l'aime, elle est folle de lui.
Elle est folle de lui. Elle accepte d'aller passer le dimanche à la campagne. Avant d'arriver au bus, ils sont suivis par un petit groupe.
Mm-hmm. Ah ouais, tout à fait. Un petit groupe qui est composé de ce qui s'avère être le frère de la fille que Raymond Lambrouille à Castagné. Alors le frère, il l'a mauvaise, c'est normal, et il est avec 2-3 poteaux qui sont un peu vénères aussi, quoi.
C'est ça, ils les suivent dans la rue, ils mettent un petit coup de pression, mais il ne se passe rien.
Un petit coup de pression, Raymond, il est en énorme sueur, en mode de genre, ah, putain, je suis suivi par des gars, ils veulent ma peau, tout ça. Enfin, il l'a mauvaise, quoi.
Ils vont déjeuner chez Masson, tout se passe très bien, les trois hommes vont se promener ensuite sur la plage.
Ils vont se baigner, ils adorent se baigner, ça,
ouais,
c'est un
c'est
truc,
vrai.
Tout le long du livre, il parle de « elle adore me baigner » et quand il pourra plus se baigner, il aura le seum parce qu'il adore se baigner.
Exactement. Merci Raphaël pour cette intervention.
Non, parce que j'adore me baigner moi aussi.
Il croise à nouveau ce petit groupe de trois personnes et alors là, en revanche, ça part en embrouille.
Énorme tape. Ouais, c'est toi qui as tapé ma sœur. Ouais, je vais te faire enculer, je te défonce.
Elle me manquait et tout. Ça commence à partir en fight, sauf que évidemment...
T'en as un, il sort un schlass.
Ben voilà, fallait que ça arrive.
Franchement pas cool.
Et alors
ça,
que
ça
les mecs
absolument.
De PNL se faisaient refaire les reins, il y en a un qui se fait refaire la gueule. C'est Raymond qui se prend un coup de couteau au visage. Mais
au calme,
bien.
Au calme.
Au calme.
Non mais quand même, franchement dégueulasse, t'arrives, un coup de chlasse comme ça.
Il décide de remonter à la maison.
Ils sont bouillants.
Exactement. Ah, bah, Raymond, malgré son coup de couteau, il est en mode vraiment, j'aurais
non,
pu
mais,
me les faire. Tu
parce
vois.
Qu'en fait ça, genre, non, quand même, ils défoncent les mecs. Mm. Mais bon, voilà, ils se sont pris un petit coup de taille-taille, voilà quoi. Ça fait mal.
Exactement. Et... Meursault arrive à convaincre Raymond de lui confier son pistolet, parce que Raymond avait un pistolet avec lui. Et du coup, Meursault récupère le pistolet de Raymond.
On sait pourquoi il veut le pistolet d'ailleurs, je sais plus si...
Non, parce qu'il sent que Raymond peut faire une bêtise.
Mmh, c'est ça.
Il y a un truc comme ça.
Oh,
il, bah oui.
Ouais, ça va. Spoiler
c'est
alert,
peut-être le seul moment où Meursault enfin prend conscience de ce qui lui arrive, mais avant de vite retomber dans l'oubli, puisque Meursault retourne sur la plage... Et il croise
il a chaud.
Au
loin. Alors, je pense que ça, on peut commencer à parler d'un truc qui est hyper important, c'est la chaleur.
Je te propose même mieux, c'est qu'on écoute Albert Camus nous lire un extrait de son roman.
À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'étendut et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
Donc on sent que niveau soleil, là, c'est plutôt clair, ça lui fait pas du bien. Et ce qui est assez marrant, c'est que tout au long du livre, vraiment, le soleil, c'est un peu un ennemi. Hein. Ça, c'est à l'enterrement de sa mère, c'est ce qui l'empêche de rester. Il a mal à la tête. Il va se taper avec le mec. Il va tuer, d'ailleurs, le mec parce que le soleil lui tape sur la tête. Vraiment, on sent qu'il est marqué par ça. Et toute la chaleur... En fait, ce qui est ouf, c'est que le livre pèse, quoi. On sent vraiment une atmosphère hyper étouffante à cause du soleil. Et on sent que c'est beaucoup ça qui le pousse aussi à faire... En fait, il est dans une espèce d'inconfort. Et du coup, la seule réaction qu'il a, c'est de faire un truc hyper violent pour, je sais pas...
C'est quasiment ouais, comme s'il attrapait un coup de soleil. Enfin, d'un coup, il y a un truc un peu flou, comme s'il rentrait, c'était plus lui-même. Sauf que, et c'est là où le roman est assez intéressant, il commence à être un peu vague, un peu flou avec ce soleil qui l'aveugle, qui lui passe sur la nuque. Et il va voir, donc, comme vient de nous le lire Albert, le personnage de l'arabe sortir un couteau, il va l'abattre. Et une fois qu'il a vu qu'il était mort...
Ça, c'est une bonne insolation quand même. Ouais. Pour buter quelqu'un, c'est que t'as plutôt brillé. Ouais.
C'est ça. Bah, ça, t'es pas de l'indice 40.
Hein. Ah, bah non.
Mais après l'avoir abattu, il va quand même lui retirer 4 coups dans le buffet. Et qui sont en revanche 4 coups qui ne sont justifiés par rien, si ce n'est par l'absurdité et l'irrationalité de ce qui est en train de se produire. Et donc, c'est la fin de cette première partie où Meursault vient d'abattre ce personnage de l'arabe.
Il vient d'abattre son premier homme. et on retrouve tout de suite pour le suivant.
Pour le second homme. Et on va passer dans cette seconde partie. Et là, où est-ce qu'il est, Meursault ?
Eh ben là, il est en zonzon.
Il est en zonzon.
Parce qu'il a fait un peu le couillon, voilà. Donc forcément, 22 Vlaïkov, il s'est fait prendre la main dessus. On a une ellipse, en gros, et là, il est directement en garde-ave.
Il est en gave.
Il est au comico. Putain, c'est la hesse, mon pote, parce que là, il y a le keuf, il vient lui mettre la pression. Après, il va chez le procureur, il a la pression.
Ah, attends. J'aimerais quand même qu'on insiste sur un petit point qui est très intéressant. On disait que la première partie était un peu comme un journal, puisqu'on suivait heure par heure tout ce qui se passait. Cette fois-ci, c'est Meursault qui dit « je me souviens » et qui nous raconte, plutôt qui se raconte à lui-même, les journées qui viennent de se passer. Et il va y avoir des énormes ellipses. Là, ça va être bien plus distendu dans le temps. On va se demander si ça se passe pas pendant des semaines ou pas. On a moins cette notion de temps qui était vraiment...
Toute cette période va se passer sur des mois, en fait. Mais parce que ça va être toute la période, en fait, où il va être interrogé d'abord, puis son procès, et enfin son attente en prison, et qui va durer un an à peu près au total, quoi.
Et bien, en fait, il l'aborde quand même de manière assez détachée, ce procès, puisqu'il est même assez indifférent au début,
indifférent à l'interrogatoire, parce que je te rappelle que t'as quand même l'espèce de juge d'instruction qui a un parfait taré, qui a des « Repends-toi ! Repends-toi, Antéchrist !» qui l'appelle quand même Antéchrist. Alors ça, je vous le dis, en termes de droit de la défense, si on t'appelle Antéchrist, t'as gagné ton procès. T'es relâché direct.
Antéchrist.
Voilà. Alors je tiens à dire que le tribunal me considère comme l'Antéchrist, voilà, enfin, très clairement comme Satan, y a pas de...
Je trouve le juge qui dit « Mon Dieu, l'Antéchrist !»
Bah, des rétros.
Non, mais c'est vraiment...
Qu'on lui coupe la tête tout de suite.
Le mec, il fait ça, l'avocat, il exposerait, fait « C'est bon. » J'ai gagné, quoi, c'est fini.
Moi, je me disais qu'on a vraiment dit qu'il était en cellule de dégrisement tellement il n'en avait rien à foutre de ce qu'il y aurait.
Il est en mauvaise gueule de bois.
Oui, il est en train de dire putain, la cellule, elle est chelou, j'en ai rien à foutre de ce que me disent les mecs. Et petit à petit, l'antéchrist, il va quand même prendre conscience qu'on le prive de liberté.
Il n'aime pas.
Et notamment, tu parlais de cet exemple d'aller nager.
Il ne peut plus nager et il ne peut plus voir Marie aussi.
Et c'est comme ça, en fait, qu'il se rend compte de la puissance de la punition. Il se dit, en fait, il ne suffit pas d'être enfermé. En fait, la prison, c'est le moment où on nous prive de cette liberté.
Et il ne comprend pas, par exemple, qu'il ne puisse pas fumer des clopes ou même qu'il ne puisse pas voir Marie et faire l'amour avec Marie.
Et en fait, il se commence à se dire... C'est une des premières fois où le personnage peut-être commence à prendre conscience aussi de ce qui se passe. Et il commence à prendre conscience de « Ah bah voilà, avant, j'avais une liberté et je ne savais pas ce qu'elle était. »
Alors voilà, en fait, il prend conscience de l'effet de ce qu'il a fait sur lui. Il ne prend pas conscience de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même, il dit « Je suis puni parce que j'ai fait ceci. » Il ne va jamais nier pendant tout le truc qu'il est coupable. Ça, c'est clair et net. Il ne va pas nier. Mais alors, c'est juste l'effet sur lui dont il se soucie, mais il ne dit jamais... La punition est adéquate, c'est simplement « Ah oui, quand tu fais une bêtise, t'es puni. » C'est littéralement un truc que tu pourrais refaire au gamin en disant « Voilà ce qui se passe. Si tu butes quelqu'un... »
Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, on va le voir un peu quand on va parler un peu plus des arguments dans le procès. Mais en plus, il y a un truc qui est assez flippant. C'est qu'à aucun moment, enfin en tout cas, cette deuxième partie qui fait une centaine de pages, on va parler du sort de cette victime, de ce personnage de l'arabe. On en a rien à foutre. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir tué une personne, c'est même pas le fait d'avoir tué sept personnes, c'est toi, Meursault, tu n'as pas répondu aux critères de ce que doit être un personnage normal dans la société. Et c'est juste ça.
Au premier ordre duquel, t'évites de buter quelqu'un.
Il va commencer à comprendre que le procès se lance, et notamment grâce à son personnage de l'avocat. Moi, je l'ai un peu vu comme le personnage de l'avocat loser dans Les Simpsons, je sais pas si tu vois.
Ouais.
Qui est un peu un mec qui est complètement perdu par ce qui se passe.
Qui est hyper fatigué tout le temps.
Et qui surtout ne comprend pas le personnage de Meursault. Il est face à ce mec, il se dit, mais c'est dingue que Meursault n'en ait rien à foutre de ce qui lui arrive.
Tu sens surtout que c'est l'avocat qui lui-même en a pas grand chose à faire, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que lui, il est intéressé. En fait, t'as une description de l'avocat et de manière générale de la justice comme un putain de spectacle sans queue ni tête. En fait, au bout d'un moment, et ça c'est hyper bien dit, c'est qu'il est dépossédé. À un moment, il a envie de gueuler dans son procès en disant non mais
on parle de moi là.
On parle de moi. J'ai envie de parler. Et son avocat lui dit non mais taisez-vous. Vous allez aggraver votre cas. Et en fait, ça se résume à c'est simplement le procureur général et l'avocat de Meursault qui vont se foutre sur la gueule et c'est tout.
C'est
deux égos qui se rencontrent mais qui excluent. Et ça c'est une critique en secrète. C'est un petit tac-tac qui met à la justice.
Mais c'est en mode.
Tout est exclu à part l'ego de celui qui représente l'État et l'ego de celui qui représente la défense.
C'est la représentation par une forme d'institution de l'absurdité de l'homme et de la société. Et vraiment, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, et ça va être tous ces moments où Meursault va peut-être prendre des pièces de puzzle pour se rendre compte du monde dans lequel il vit avant cette fin où on verra ce qui se passe. Le problème, c'est que le procès commence. On commence à ramener tous les témoins. En fait, toutes ces personnes qu'on a vues dans la première partie du roman qui vont tous venir témoigner. Et qui vont objectivement raconter leur relation avec Meursault.
En fait, ils racontent tous objectivement le truc.
C'est ça.
Et tu peux le tourner toujours d'une manière...
Alors, il y a un moment qui est incroyable, je trouve, c'est quand il ramène l'ex de sa mère, qui était un petit vieux en maison de retraite, avec qui elle aimait traîner, et qui a assisté à l'enterrement au début, et qui commence à expliquer que...
Il n'a rien vu, quoi.
Mais je l'ai rien vu. Et le procureur retient, donc il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. On note, et l'avocat de Meursault de répondre, « Non, mais est-ce que vous l'avez vu, ne pas pleurer ?» Il dit, « Mais non, j'ai rien vu du tout. »
Et là, du coup, c'est vraiment « Putain, mais what the fuck, quoi ?»
Et je trouve ça très beau parce qu'il commence là-dessus et on se dit « Ok, donc c'est à partir de là, tous les éléments qui vont être mis au tribunal, on peut les prendre d'un côté comme de l'autre. » Et tous les faits de Meursault...
Ils peuvent être vus de deux façons, quoi.
C'est ça. L'avocat, il va commencer à dire « Mais rendez-vous compte à quel point Meursault, c'est un personnage loyal, qui s'est toujours engagé pour ses amis, qui est un type, qui n'a pas des convictions de dingue, mais qui est toujours là. »
Il est intègre, il bosse bien, il emmerde personne, enfin voilà.
C'est ça.
Il a vrillé une fois, et voilà. Du coup, ça ne se passe pas bien pour lui, puisque du coup, tu as l'inverse qui est fait justement par l'accusation qui va dire qui va prendre d'autres témoins en disant, objectivement, il se comporte comme ça, il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, il en a rien à foutre, il a buté ce mec comme il aurait buté n'importe qui, il s'est acharné sur le corps en tirant les 4 balles après l'avoir tué de la première balle. C'est un monstre sans morale, sans cœur, et il finit par dire, en gros, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire, t'as un deuxième procès qui se joue le lendemain et qui est le procès de l'été qui est attendu. Bref, ce qui est hyper...
Un
parricide, ce qui est hyper dur en plus, c'est qu'ils disent, ce procès-là, on en a rien à branler, c'est pour le procès de demain qu'il y a des journalistes de Paris qui sont venus. Et il dit, au final, l'avocat général dit, lorsque vous allez juger Meursault, en fait, c'est aussi grave que ce que fait le parricide, donc vous devez le juger en conséquence. Bah, littéralement, mais... le mec dit juger, finir... donner la même peine que ce que vous donneriez à un parricide.
Et bah, en même temps, c'est tuer un homme, hein, oui, donc non, il a raison.
Tu vois,
oui,
dire, bien sûr. Il met carrément les émotions de tout le monde sur le « Oh là là, il a tué un père », alors qu'il peut tout ça, quoi.
Et c'est ce qui a un peu révolté Meursault, mais Meursault va jamais...
Jamais, il dit rien.
Ouvre sa gueule, mais il va commencer à comprendre. On lui ressort les arguments de sa mère, de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère, et on va lui dire « Vous êtes un homme qui tuait moralement votre mère, qui l'a tué moralement, et à tel point qu'on va lui dire « Vous avez enterré votre mère avec un cœur de criminel. »
Ça, c'est une phrase, elle est ouf.
Incroyable, mais d'un coup, on commence à lui reprocher de ne pas avoir pleuré. Comme si on lui reprochait, en fait, et c'est vraiment ça, on lui reproche pas d'avoir tué quelqu'un, on lui reproche d'avoir été, voilà, une page blanche toute sa vie. De dire, vous avez été rien, et vous n'en avez rien eu à foutre de tout. Et c'est ça, en fait, on le juge pour ça, on le juge pas pour avoir tué un personnage dont on se fout, puisqu'on n'en parle même pas de ce personnage de l'arabe. Et donc, il y a plusieurs éléments, on va notamment, voilà, reprocher à Meursault d'avoir écrit cette fameuse lettre de Raymond, donc en fait, ça devient comme... si c'était un personnage crapuleux, donc inévitablement meurtrier.
Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'issue de ce procès ?
Eh bien, justement, on va demander à Meursault de sortir pendant que les jurés délibèrent. On va le faire revenir et c'est un moment que je trouve absolument dingue. Il revient et il dit que ce qui le frappe quand il revient dans le box, c'est le silence de la salle et que personne n'ose le regarder dans les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend et il dit de manière bizarre... Le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français.
Ouais, vous aurez la tête tranchée sur la place publique. Il était hyper bizarre, ce levez-vous, accusé. Ouais, alors je veux bien me lever, mais s'il vous plaît, on peut changer de jeu, ça, franchement, vous faites des hyper malades.
Ta gueule, antéchrist. Ta gueule.
Les avocats qui font, ah, s'il vous plaît, c'est vraiment hyper gênant à regarder.
Et en plus, Meursault, il se dit, bon, ok, je vais avoir la tête coupée. Et il commence à s'imaginer une exécution à la Louis XVI.
Ouais.
Il pense qu'on va le faire monter sur l'échafaud, en place publique. Il y aura 400 personnes qui vont être là pour le regarder. Et en fait, il se rappelle soudainement que, bah non, une exécution, ça se passe certes sur une place publique, mais c'est une petite cour. C'est très étroit, c'est à même le sol quasiment. Il n'y a rien de... Et j'ose l'expression, il n'y a rien de romantique dans cette exécution.
Non, mais c'est ça, c'est le bon terme. Il n'y a rien de fantasmé là-dedans, c'est un truc, c'est mécanique. Et il parle de mécanique.
Et attends, excuse-moi, avant de parler de mécanique. Et encore pire, c'est qu'à un moment où il commence à se rendre compte qu'on va lui couper la tête, il n'éprouve toujours aucun remords pour avoir tué ce personnage. Juste maintenant, ce qui lui fait peur, c'est de sentir sa tête être tranchée.
Implacablement. Et en fait, il a envie de retarder et tout. Alors voilà, là, on arrive au dernier... on est toujours dans la deuxième partie, mais on est dans le dernier bout de ce livre où vraiment c'est juste l'attente de Meursault qui sait qu'il va être exécuté, il ne peut plus y échapper, et c'est son attente. Et il va raconter comment est-ce que, c'est là qu'on va arriver, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est là qu'on va arriver enfin dans la prise de conscience par le personnage de l'absurde de la situation et de la vie de manière générale, qui va lui permettre de dépasser cet absurde pour... finalement être heureux, quoi.
Ben en fait, c'est donc ce qu'on explique au début, c'est cette pensée de Camus qui va être, il va s'en révolter, et en fait, en prenant conscience de cette absurdité, il peut enfin prendre conscience que oui, il a été heureux dans un certain moment de sa vie, qu'il peut toujours l'être, et qu'il va se dire, il faut que je profite encore des derniers instants qui m'arrivent.
Mais alors, comment ça va se passer, du coup ?
Mais du coup, c'était intéressant, moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, ces dernières pages, c'est quoi ? C'est 20, 30 dernières pages.
20 dernières pages, ouais.
Quasiment, t'as l'impression de tomber dans les derniers jours d'un condamné de Hugo.
Mais c'est ça, en fait.
Et en fait, ce mec va commencer à expliquer à quel point cette attente le rend fou, à quel point on ne lui donne pas le jour de sa mort. Et en fait, il sait qu'il y a seulement un pourvoi en cassation qui peut le sauver. Et il dit que si son pourvoi est rejeté, ils viennent le chercher et c'est dans les minutes qui arrivent. Et il a peur. Toute la nuit, il se dit, je vais entendre des pas arriver et ça va être pour moi, quoi. Et c'est une torture psychologique horrible pour Meursault. Encore pire que cette attente, on vient lui coltiner à un prêtre archi chelou qui veut absolument le convertir.
Qui veut absolument lui parler.
C'est ça, et qui en plus...
Ça c'est la deuxième étape, c'est-à-dire que la première étape en effet c'était tu te rends compte que c'est absurde. Là la deuxième étape c'est le prêtre, il refuse concrètement de parler avec le prêtre dit non mais il essaye tous les moyens de dire non mais même si vous ne croyez pas dans le fond vous avez un peu d'espoir, etc.
C'est ça.
Non, Meursault en fait ce qui est assez ouf c'est qu'il est implacable de logique. De je m'en fous. Comme il s'en fout de ça, bah, Dieu, il en a rien à foutre.
Il est totalement nihiliste. C'est...
Voilà,
il s'en fout.
Exactement, il est nihiliste. Et du coup, le prêtre, à la fin, il en peut plus. Il dit, mais il y a bien quelque chose à faire. Et c'est ce moment où, justement, il se révolte,
ouais.
Meursault, contre l'absurdité de la vie. Et c'est la seule fois où il a une émotion qui transparaît parce qu'il va saisir le prêtre, il va le secouer, il va hurler.
On va lui arracher le prêtre, il va rentrer dans une sorte de transe, et c'est au moment de cette transe qu'il va se rendre compte en fait de tout, et se rendre compte que tout est absurde, rien n'a de sens, puisque peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est voué qu'à une seule chose, c'est de mourir. Et à partir de là, en fait, il prend conscience de l'absurdité de la vie, des institutions, de la condition humaine, de tout, et il se dit, ok, bah en fait, le seul truc qui peut rester, c'est être heureux, et en fait, j'ai été heureux dans certains moments de ma vie. Je peux l'être.
Je peux encore l'être avant même d'être.
Je peux encore l'être. Et dans ce cas-là, il se dit, mais je préfère qu'on ressente des choses pour moi plutôt que de l'indifférence. Donc en fait, il va d'un coup renier tout ce qu'il a pensé mettre en avant pendant toute sa vie. Et il va se dire, ok, le jour où je arrive pour me faire couper la tête, je préfère qu'il y ait, je dis n'importe, je sais plus comment il dit, mais je préfère qu'il y ait 200 personnes qui soient là pour me haïr,
ouais,
plutôt qu'il n'y ait personne, quoi. Et moi, je trouve ça, c'est super émouvant. Ça finit là-dessus. Le livre se termine comme un plaidoyer contre la peine de mort, contre cette torture psychologique horrible. Moi, vraiment, je l'ai pris comme ça.
Ah, tu le vois comme ça ? Ok, c'est une vision. C'est... Moi, je... Ouais, ok. Ok, c'est une vision.
Bon, tu dis ça parce qu'après, Raph, il a un t-shirt pour la peine de mort face à moi, donc c'est un peu gênant de dire ça.
Il y a marqué « peine de mort, oui, merci ».
Keep calm and peine de mort.
Keep calm. Avec une guillotine. Voilà, c'était « L'étranger » d'Albert Camus. Gaspard, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Écoute, moi j'ai été assez frappé. Je vais être très franc avec toi. Je n'avais jamais lu ce roman.
Quoi ?
Je n'avais jamais lu
ce roman. Oh le bolos !
Parce que...
Sors de ce corps, Antéchrist !
Parce qu'au lycée, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas lu.
C'est pas ce que t'as fait au lycée.
Je sais plus. J'ai un blanc.
J'ai un trou total. J'avais chaud. J'avais tellement chaud.
Bah, tu le disais, l'écriture est vraiment impressionnante parce qu'on est vraiment du point de vue de Meursault qui n'est pas un type agréable. Mais j'étais très ému. En fait, j'étais surpris, après ces 120 premières pages très froides, d'être aussi ému par la fin.
Merci Albert. Et pour ma part, écoute, c'était donc la deuxième fois que je le lisais. Je l'avais lu il y a quelques années. J'ai beaucoup aimé aussi parce que ce début est, je trouve, assez... alors, évidemment, la première phrase de... Je pense que c'est une des meilleures, un des meilleurs débuts de livres de tous les temps. Tu vois, si je devais faire un top 10 des débuts de livres... ça serait sûrement dans le top 3. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le lire. C'est une très belle lecture. Une lecture, comme on le disait, qui se lit très bien dans le métro parce qu'en plus, vous avez vraiment...
Vous lisez Albert Camus, il y a marqué prix Nobel dessus. Hein,
ah bah alors là, mon gars, je peux te dire, tu vas choper du gars ou de la zouze, hein, parce que chacun ses goûts, chacun sa vie, chacun son chemin. Et je pense que ça peut être la morale de ce livre.
Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que juste quand tu le lis la première fois, il y a marqué le personnage de c'est l'arabe. Il y a eu un petit truc du personnage du mec de 2017 que nous sommes où j'étais en mode genre ouais, wow, bro, essaie de trouver un autre mot quand même parce que
wow,
c'est
okay,
un peu chelou là.
L'arabe, ok, bon, c'est
il a un prénom, hein, tu sais.
C'était un être humain, mais bon, je... Il est tout le temps nommé l'arabe et il est avec un groupe d'arabes.
C'est vraiment ça. J'étais en mode, disons qu'Albert, t'as quand même chopé le prix Nobel. T'as été un peu plus fin, non?
Ouais, wow, alright, d'accord. Bon, et ben écoute.
Parce que même le yinche a un nom, quoi. Bon, où t'es en mode genre, mais donc le personnage de l'arabe, t'aurais pu lui passer un prénom. Je sais qu'on est dans la tête de Meursault, que Meursault est un peu chelou.
Même le chien est plus développé que l'arabe. Il a une personnalité.
On est d'accord, hein, on est du point de vue de Meursault qui est un type assez chamboulé dans sa tête. Donc. C'est un peu comme ce qu'on disait sur des souris et des hommes. On est du point de vue de personnage, donc on s'exprime de leur point de vue. On n'est pas non plus...
Pas d'amalgame. Chacun sa vie, chacun son crédit. C'était L'étranger d'Albert Camus.
Ouais, est-ce que t'as peut-être un petit conseil, un truc un peu similaire à nous dire
Ouais, alors de recommandations, crème solaire indice 50. Ouais. Ça, c'est indispensable.
Ça évite de partir en quête. Tu m'as piqué mon conseil.
Yes, trop content.
Non, c'est... mais du coup, ouais, moi, je vous conseille les petites casquettes qui vous protègent la nuque.
Voilà, sortez couvert.
Ouais. J'étais très heureux d'animer cette émission avec toi, Raphaël. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler musique.
Oui, et on va parler d'un chef-d'œuvre, on va parler de notre enfance, de notre adolescence, d'un moment qui nous a construit. Et on va dédicacer cet épisode qui viendra à une personne qui était très chère dans nos cœurs, puisque la semaine prochaine, on parle de Météora.
De Linkin Park.
Exactement.
Et le prochain livre, c'est dans un mois, et après avoir enchaîné deux prix Nobel de littérature, on va lire un prochain, on l'espère, prix Nobel de littérature, on touche du bois, puisque dans un mois, et ça sera le dernier épisode avant les fêtes, on va lire 7 jours pour une éternité de Marc Lévy.
On a hâte.
Ouais.
Hâte.
Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez
Merci
vous abonner sur iTunes et notre plateforme PodCloud.
Exactement. qui est un remix roumain de plateforme podcast, voilà, on avait pas d'argent, alors
parce que cloud ça s'écrit CLAWAD
avec des umlauts.
Put cloud.
C'est littéralement un mec au fond de la Roumanie.
Il a un des fichiers MP3
et à chaque fois que tu cliques pour lire le podcast, il joue son tête, il a son lecteur cassette, il appuie sur on.
Il voilà. Va faire plus 15 secondes. Plus que...
On dit merci à Romagnou, on lui fait un gros big up.
On essaie de t'envoyer le fichier le plus rapidement possible.
Voilà. Ça prend quand même quelques jours avec Ado de. Voilà.
Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao. I hear no sound, I'm alive. I'm dead. I'm a stranger. Killing an Arab. I can turn and walk away or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive.